faut que tu retrouves ce regard-là. L'œil du tigre, mec. Ouais, l'œil du tigre.
Bonjour madame, bonjour mademoiselle, bonjour monsieur.
Le golf, certes avec beaucoup de retard sur le tennis, se démocratise. Sport de riches fabricants des milliardaires, il fait toujours la fortune de ses meilleurs adeptes, mais il ouvre grande ses portes. À Tiger Woods, par exemple, à 14 ans, ce petit Américain fait déjà trembler les grands en attendant de les croquer.
Il est apparu sur le circuit professionnel l'année où Bill Clinton a été réélu président des États-Unis. Il a joué au golf avec les Bush, père et fils, comme avec Clinton d'ailleurs. Il a été reçu en grande pompe à la Maison-Blanche par Barack Obama en 2009. Et l'an passé, Donald Trump l'a décoré de la médaille présidentielle de la liberté. Alors soyons sûrs que Joe Biden tentera lui aussi d'apprivoiser le Tiger Woods, fils prodige de l'Amérique, légende du golf et un poil sociopathe. Au programme ce soir donc, trois invités au micro d'Inter pour tenter de décortiquer la psyché du mythe Tiger Woods. Tout d'abord, il est biographe, fin connaisseur des États-Unis. Il vient de diriger le commissariat d'une exposition consacrée à Woods. Frédéric Lecomte-Dieu est confiné dans le Vercors. Nous le rejoignons tout à l'heure par duplex. À ses côtés, deux journalistes. D'abord, le traducteur de la biographie américaine de Tiger Woods, Philippe Chaspeau, qui lui aussi est confiné près de Rodez. Nous le retrouverons tout à l'heure par duplex. Et à mes côté en studio, masqué, Arnaud Tillous, rédacteur en chef du journal du Golf. Bonsoir, bonsoir.
Bonsoir.
Et bienvenue à vous aussi. Je suis heureux de vous voir en chair et en os face à moi. Et puis, juste avant le journal de 19h, la victoire en chantant de Pierre-Étienne Minanzio. Ce soir, jour de départ du Vendée Globe, retour sur Manu Reva par Alain Chamfort. Vous êtes bien sur France Inter dans l'émission qui vous raconte la grande histoire du sport. Au menu ce soir, Tiger Woods, golfeur hors norme et fils de son père.
L'œil du tigre, Philippe Collin sur France Inter.
Alors, l'habitude est prise, nous débutons cette émission par la minute musculaire de Robert Reynaud, sémillant professeur de gymnastique des 50s. Et ce soir, il vous propose d'imiter une paire de ciseaux, les deux bras tendus pour travailler épaules et poitrine, aller toc et toc, comme le dit si bien Robert Reynaud.
Ce sont d'abord des ciseaux, de tout petits ciseaux que vous effectuez en avant avec les bras tendus pour bien faire travailler les muscles de la poitrine. Et aussi les muscles des épaules d'ailleurs. Vous portez les deux bras tendus en avant, les paumes de main tournées vers le sol et vous croisez le bras droit au-dessus, puis immédiatement au-dessous du gauche. Toc et toc, un mouvement rapide de cisaille. Ensuite, vous portez les bras sur les côtés, vous les amenez tous les deux bien tendus et vous forcez en arrière. Si vous voulez, c'est la phase corrective de l'exercice. La première étant la phase tonique pour les muscles de la poitrine et la seconde, la phase corrective, afin de redresser le dos, de recoller, de fixer les omoplates sur la cage thoracique. Alors deux fois en arrière, un temps de fouetter, un temps de recul, et vous repartez en avant très vite, en arrière, vous forcez deux fois. En avant vos ciseaux, en arrière, deux fois, en avant très vite, en arrière, deux fois, c'est bien. En arrière, deux fois, toc et toc en avant, la croisez bien le bras droit au-dessus, puis au-dessous du gauche. En arrière, deux fois, hop là en avant, et en arrière. Deux fois en arrière, et c'est terminé.
Ah là là, toc et toc. Après les ciseaux du professeur Reynaud, voici l'heure du green et des clubs. Voici l'histoire du dimanche soir. Le 13 avril 1997, dans les coulisses du clubhouse du parcours de golf d'Augusta en Géorgie, le plus prestigieux au monde, les employés afro-américains sont scotchés devant leur poste de radio. Fébrile, ils écoutent les commentateurs du Masters. Les plus âgés d'entre eux se souviennent très bien que dans les années 50 et 60, le champion de golf Charlie Seaford ne fut pas autorisé à fouler le gazon d'Augusta parce que noir de peau. Or, ce 13 avril 1997, en finale du Masters, une des plus grandes compétitions de golf au monde, un jeune homme noir est en train de décrocher le titre.
Le sacre du printemps. There it is. L'éclosion d'un phénomène du sport mondial. Tiger Woods, plus jeune vainqueur des Masters à 21 ans, une incroyable précocité pour un golfeur. Dans cet état du Sud, l'Américain devient le premier joueur noir à remporter ce tournoi du Grand Chelem, réservé aux Blancs jusqu'en 1975. Il surclasse tous ses adversaires avec beaucoup d'assurance. Tiger Woods, 1m84, une souplesse naturelle, une vitesse de rotation exceptionnelle, doublée d'un mental hors du commun. à l'issue des 4 journées de compétition, une victoire annoncée, programmée par un père, militaire de carrière, marié à une Thaïlandaise. Earl Woods a toujours voulu faire de son fils unique le meilleur golfeur de tous les temps. Depuis ses débuts professionnels en août dernier, Woods enchaîne les coups d'éclat, draine les foules et les sponsors avec lesquels il signe des contrats mirobolants. Ce génie du golf remporte les Masters avec 12 coups d'avance et reçoit l'hommage de Nick Faldo, vainqueur ici même l'an dernier. Les exploits de Tiger Woods pourraient susciter à travers le monde de nouvelles vocations.
Frédéric Lecomte-Dieu, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, vous êtes confiné dans le Vercors, mais vous êtes avec nous quand même ce soir grâce au miracle de la technologie. Vous êtes biographe, spécialiste des mythes américains. Tiger Woods appartient à cette catégorie. Vous lui avez consacré une riche exposition virtuelle qu'on peut découvrir sur le web, Covid oblige. En quoi Tiger Woods est-il l'enfant des États-Unis à la fin du 20e et au début du 21e siècle, Frédéric ? En quoi est-il l'enfant des États-Unis ?
Alors, il faut savoir que le golf, à cette époque, était destiné pratiquement dans les championnats aux blancs. Il n'y a pas de joueurs noirs, excepté, vous l'avez cité tout à l'heure dans l'introduction, Charlie Seaford. Mais lorsque son père décide, entre guillemets, que son fils va rentrer dans l'univers du golf, il y a plein de barrières à franchir. Et la première barrière à franchir, c'est la barrière raciale. Et là, il va prendre quelques instants avec lui pour lui expliquer. Il explique d'ailleurs dans un magazine de golf en lui disant, voilà, à l'époque, quand j'avais ton âge, je ne pouvais pas jouer sur tel golf. J'avais pas le droit de prendre une douche dans les vestiaires. C'était interdit. Je pouvais pas manger dans un restaurant. Donc, Tiger va comprendre, en fin de compte, qu'il y a une différence entre les blancs et les noirs à partir de ce moment-là. Mais par contre, lorsqu'il va intégrer l'univers du golf et les championnats, les gens vont découvrir son talent, parce que c'est un gamin extraordinaire, hein, même quand il était très jeune, à 12-13 ans déjà, il gagnait les championnats. Et il va être remarqué, et au moment où il va franchir les barrières du Masters, donc à Augusta National, évidemment c'est un type intelligent, il a fait Stanford, il comprend tout de suite que non seulement il doit gagner ce championnat, parce qu'il a envie d'avoir une carrière légendaire dans le golf, mais il doit en même temps prouver que les Noirs sont capables de faire des choses remarquables comme les Blancs. Alors, il va jamais le revendiquer, hein, mais évidemment, vous l'avez dit tout à l'heure dans l'introduction, c'est que tout le personnel d'Augusta National, dont le chef de cuisine là qui s'appelle Jess Bolm, dit
qu'ils sont noirs
de peau. Impossible, il peut pas gagner, parce que tous les Noirs qui sont à Augusta portent des sacs et point barre.
Bien sûr, évidemment. Amnotidou, vous êtes journaliste, rédacteur en chef du journal du Golf. Alors, s'il est l'enfant de l'Amérique, il est surtout l'enfant de son père, le fils de son père, c'est très important, Frédéric vient d'en parler. Donc, Tiger est né en 1975 en Californie. Qui est son père ? Qui est Earl Woods, Arnaud ?
Earl Woods, c'est un ancien soldat, un ancien béret vert qui a fait la guerre du Vietnam. Son fils le respectait beaucoup pour ça. D'ailleurs, à un moment, il a pensé lui aussi faire carrière. Peut-être qu'on y reviendra dans cette émission. Ça fait beaucoup jaser. Mais Earl Woods, donc ce béret vert, a tout fait pour que son fils devienne un champion. Il faisait des swings devant sa chaise haute quand il avait quelques mois. Il l'a amené à la télé américaine à 2 ans et demi. Il en a vraiment fait, il l'a fabriqué pour qu'il devienne un champion, mais ne pas oublier aussi quand même sa mère, thaïlandaise, vous le disiez
disons un mot de sa mère, qui s'appelle Kultida Punzawad.
Qui elle aussi a tout fait pour que son fils, elle lui disait quand il allait en tournoi, elle lui disait il faut que tu tues tes adversaires, il faut que tu leur arraches le cœur. Donc elle aussi, parce que le golf est un sport excessivement mental, et sa mère comme son père ont vraiment tout fait pour que Tiger Woods soit un tueur mentalement, soit le plus fort mentalement, et ça a été le cas. Pendant 20 ans, il a dominé le golf comme personne.
Arnaud, les gens qui ont peut-être une image de Tiger Woods l'ont vu jouer en rouge, souvent le dimanche, il jouait en rouge pour les jours de finale. On dit que c'est lié à sa mère, est-ce que c'est vrai ou pas,
Arnaud ? Oui, et puis c'est la couleur du sang, le dernier jour, ça lui donnait confiance, et il a toujours fait ça toute sa carrière pour impressionner encore un peu plus ses adversaires, et ça a fonctionné pendant toute la décennie, en tout cas 2000, où il était quasiment intouchable quand il était en tête le dimanche.
On dit qu'elle est thaïlandaise, on dit que chaque jour de la semaine a une couleur en Thaïlande et que le dimanche c'est le rouge, et qu'il y avait une sorte de rite aussi entre eux, presque superstitieux, de on va jouer en rouge tous les dimanches pour faire honneur à la Thaïlande et pour peut-être gagner chaque tournoi. Philippe Chassepot, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Vous êtes confiné près de Rodez, je crois, mais vous êtes là aussi avec nous ce soir. Je voudrais qu'on insiste un peu, vous êtes journaliste et vous avez traduit la grande biographie américaine de Tiger Woods. J'aimerais qu'on insiste un peu sur ce père omniprésent. Ils sont indissociables, Earl Woods et Tiger Woods, à commencer par le surnom, parce qu'il ne s'appelle pas Tiger à l'état civil, Tiger Woods. Pourquoi s'appelle-t-il Tiger d'ailleurs, Philippe ?
Et il s'appelle Tiger parce que Arnaud a parlé de son père qui a fait la guerre au Vietnam et son père a eu la vie sauve par un autre soldat américain dont le surnom était Tiger. Ce soldat, cet ami de Earl Woods a disparu. Il n'a pas eu de nouvelles pendant des années. On a appris plus tard qu'il a été fait prisonnier dans un camp de guerre et qu'il y est mort de faim. Et Earl Woods a eu l'idée de surnommer son fils Tiger, puisqu'il était persuadé qu'il allait devenir très célèbre. Et il s'est dit, peut-être que quand mon fils sera très célèbre, mon ami Tiger se reconnaîtra dans le prénom que je lui ai donné et qui donnera des nouvelles et qu'on pourra enfin savoir ce qui s'est passé.
Mais voilà, c'est une charge émotionnelle énorme pour le gamin quand même, hein, de porter ce surnom de Tiger.
Ouais, mais non, mais d'entrée de jeu, quoi. J'ai l'impression que les charges, ça a été très très libre. Enfin, elles ont toutes été énormes sur les épaules de Tiger Woods, mais il les a toutes portées et surmontées sans aucun problème.
Frédéric Lecomte-Dieu, je voudrais qu'on revienne encore sur cette dimension du mythe américain. Dans les mythes américains, la présence ou l'absence du père est souvent très très importante. Là, ça va au-delà, Frédéric, parce que j'ai vu des spots vidéo post-mortem, après la mort d'Earl Woods, des spots Nike, on va le dire, où on entend la voix de Earl Woods qui parle à son fils. Vous savez, c'est comme dans Star Wars, c'est-à-dire que Obi-Wan Kenobi, qui n'est pas le père de Luke Skywalker, mais qui est son maître, hein, qui est son formateur, parle à Luke post-mortem. Et là, ces spots sont assez ahurissants, où on entend la voix de Earl qui donne des conseils à son fils, Frédéric. C'est assez incroyable.
Oui, il faut savoir que dans les États-Unis, on aime bien, dans le rêve américain, on aime beaucoup les légendes.
Oui.
John Kennedy avait son père, Joseph, qui était derrière lui. Mohamed Ali, qui est une figure mythique pour Tiger Woods. Parce qu'à cette époque, Tiger n'avait pas de héros comme Jack Nicklaus, c'était des adversaires, Jack Nicklaus. Hein. Mais il a toujours dit, voilà, Mohamed Ali, c'est mon héros. Et Mohamed Ali, par exemple, c'était un type qui a été championnat de boxe et on lui a retiré son titre quand il a refusé d'aller au Vietnam parce qu'il a dit pour moi il y a aucun Vietcong qui m'a traité de nègre. Mm-hmm. Alors il va pas faire de la prison, etc. Mais on va lui retirer son titre mondial. Et de ce fait, il va écouter son père en disant « Je peux rebondir ». Il va de nouveau récupérer son titre. Alors ce sont des gens, dans le rêve américain, vous savez, les Américains aiment bien, les gens sont en haut du podium, après ils se cassent la gueule et ils remontent. Et Tiger fait partie de ces gens-là. Alors, il y a des présidents qui disaient, voilà, les victoires en plein de pères et les défaites sont orphelines. C'est vrai que lorsqu'on échoue, vous avez vos adversaires qui vous mettent à terre. Mais lorsque vous remontez, alors là, vous n'êtes plus un homme, vous n'êtes plus un athlète, vous devenez une légende. Et c'est ce que Tiger a réussi à faire. On l'a vu, vous allez certainement en parler dans l'émission.
Oui.
À partir du moment où il va gagner de nouveau l'Augusta.
Absolument. Arnaud Tillius, les obsessions hein, du père vont conduire le fils à une très grande précocité. En effet, il va jouer très très jeune au golf. D'ailleurs, le père s'arrange pour qu'on crée des clubs de golf à la hauteur de son enfant qui a genre 11 mois ou 14 mois. C'est assez insensé. Il va en faire un enfant star, vous l'avez dit. Il est invité à un grand show sur ABC à l'âge de 5 ans. C'est quand même assez incroyable. C'est un enfant star.
Même avant.
Mais sur ABC, c'est un grand show. Il est invité à l'âge de 5 ans. C'est une sorte de Michael Jackson du golf, hein, c'est assez impressionnant. C'est un prodige, hein, effectivement, il a une classe folle, mais pour bien comprendre, donc on sait qu'il arrive aux États-Unis, Tiger Woods, on sait que c'est un enfant prodige, il y a un crack du golf qui est en train de monter aux États-Unis. Mais pour bien comprendre, Arnaud, pourquoi ça nous parle peut-être moins en France, c'est que aux États-Unis, c'est un sport très très populaire, le golf, Arnaud.
Oui, le Arnold Palmer dans les années 60 l'avait développé à l'apparition de la télévision. Il avait fait rentrer dans tous les foyers américains. Les Américains, il y a environ 30 millions, entre 30 et 40 millions de golfeurs. Donc c'est vraiment un sport très très populaire. Tout le monde joue au golf là-bas, ou beaucoup de gens jouent au golf là-bas. Donc forcément, l'avènement de Tiger a fait beaucoup beaucoup parler. Mais lui aussi, un peu à l'image d'Arnold Palmer, parce que Jack Nicklaus est peut-être le plus grand golfeur de tous les temps, mais les deux golfeurs qui ont vraiment fait rentrer le golf comme un sport normal et comme un sport même peut-être le plus populaire de tous, c'est vraiment Arnold Palmer et Tiger Woods. Tiger Woods a vraiment fait exploser le golf à la fin des années 90, après le Masters 97 et au début des années 2000 quand il a tout dominé. Il a vraiment fait du golf le sport numéro un aux États-Unis. Il est devenu le sportif numéro un devant Michael Jordan et devant les joueurs de football américain.
Arnaud, il explose le golf pas uniquement parce qu'il est noir de peau, parce que est-ce qu'il apporte autre chose? On dit que c'est le premier golfeur qui a soulevé de la fonte, par exemple. C'est-à-dire qu'en fait, tout d'un coup, il apporte un corps aussi, un corps musclé, une puissance de jeu. Est-ce qu'il a changé le golf profondément?
Il a complètement révolutionné le golf. Après lui, on a changé les parcours, et notamment ce fameux Augusta National, là où il a gagné le Master en 97, dans l'extrait qu'on a entendu tout à l'heure.
À 21 ans, je rappelle.
À 21 ans, ils ont été obligés de reculer les départs parce que Tiger accomplissait des distances.
Tapait trop fort
et accomplissait des distances ahurissantes. Donc, voilà.
Donc il a aussi changé le style du golf.
Les golfeurs n'étaient pas vraiment des athlètes avant Tiger, et après, tout le monde a été obligé de s'y mettre. Et maintenant, tous les golfeurs sont des athlètes. Dans les 100 premiers mondiaux, il n'y a quasiment plus un seul joueur qui ne soit pas un athlète et qui ne soulève pas de la fonte et qui ne fasse pas une préparation physique comme tous les autres sportifs.
Philippe Chassepeau, je voudrais qu'on revienne aussi à la dimension du racisme qui touche évidemment Tiger Woods. Évidemment, il va devenir une vedette. Son père le met en garde. Hein, lui, enfant des années 50 et 40, hein, le père de Tiger Woods a vécu la ségrégation, le racisme. Mais il faut rappeler que Tiger va aussi subir le racisme dans son ascension. Il va devenir un grand joueur universitaire. Je crois qu'il est poignardé sur le campus de Stanford. Il va devenir un grand étudiant de Stanford. Il est poignardé sur le campus. Il va lui devoir aussi affronter cette Amérique raciste, Philippe.
Écoutez, je vais mettre quelques petites réserves
allez-y.
À vos propos, hein,
Allez-y.
Il y a eu beaucoup, on a beaucoup parlé du père de Tiger Woods, il y a eu beaucoup de storytelling. Le Earl Woods avait décidé depuis toujours que son fils allait devenir un géant. Et il a eu besoin de fournir un petit peu quelques éléments narratifs à la presse américaine et à des journalistes choisis parce qu'il parlait pas à n'importe qui. Il fallait d'abord s'assurer que les journalistes soient bien amis. Donc en fait, personne remettait vraiment en cause tout ce qu'il pouvait leur raconter. Il y a eu une première histoire, juste avant Stanford, comme quoi Tiger Woods, quand il était à l'école primaire ou en sortie de maternelle, aurait été agressé par ses camarades. C'est Earl qui raconte, il a été attaché à un arbre, ils l'ont mis torse nu, ils l'ont jeté des pierres, ils l'ont écrit des insultes racistes sur le corps, et Woods a réussi à se libérer lui-même et à rentrer à pied tout seul en fuyant l'école jusque chez lui. Woods n'a jamais vraiment raconté ça, il a dit oui c'est arrivé 2-3 fois, sans rentrer dans les détails, parce que je pense que pour lui c'était complètement impossible de nier la parole du père. Mais les fameux journalistes américains qui ont écrit cette biographie que j'ai traduite donc ont mené l'enquête. Ils ont quand même passé beaucoup de temps, ils sont allés sur place, ils sont allés voir l'école, ils sont allés voir les lieux, comment ils étaient disposés, ils sont allés voir l'institutrice de Tiger à cette époque, le directeur, et quand même, ils se sont rendus compte que c'était pas vraiment possible qu'une chose pareille puisse se produire. C'est un petit peu pareil chez nous dans les cours d'école. C'est un machin entre l'organisation, les protections, la présence des instituteurs, etc. C'est quelque chose qui n'a probablement pas pu arriver. D'ailleurs, ils n'ont pas eu peur de le mettre dans la biographie parce qu'ils savaient qu'ils craignaient rien au niveau juridique. Donc, il y a déjà une première histoire là-dessus où on n'est pas très certain que ce soit arrivé. Vous faisiez référence à Stanford. C'était pas vraiment poignardé. Il aurait été menacé pour il se serait fait dérober son portefeuille. Là encore, les policiers qui sont arrivés sur place ont cherché des traces de l'agression ou des preuves. Cette histoire est très, 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 très nébuleuse. On ne sait pas si Tiger Woods était dans son état normal. Est-ce qu'il a voulu raconter une histoire pour justifier la perte de quelque chose? En tout cas, on n'est même pas sûr de l'agression. Et je pense que le mobile raciste, à mon avis, n'a absolument rien à voir. Si c'est une agression qui a vraiment eu lieu, c'est simplement.
Mais ça veut dire que Earl Woods a essayé de mettre, on va dire, cette situation en scène, en fait. C'est ça ce que vous dites?
Non, mais Earl Woods, là où il est extraordinaire, c'est qu'en fait, il a tout imaginé. Pour lui, il y avait un plan. Et il y avait quand même cette phrase fabuleuse qu'il a répétée plusieurs fois. Il a dit, Tiger Woods aura une influence, mon fils aura une influence sur l'histoire de la planète qui sera plus grande que celle de Gandhi ou de Nelson Mandela. Alors, tout le monde s'est moqué de lui au début, et surtout en 2009-2010, quand il a eu tous ces problèmes dans sa vie privée où son image était complètement fracassée. Là, on en a déduit que c'était absolument impossible qu'il puisse avoir un destin autre que celui d'icône déchue. Et finalement, quand même, avec le temps, on se rend compte que maintenant qu'il a fait acte de contrition publique et que son image a été à peu près réparée, on peut imaginer effectivement que Tiger Woods, sans rejoindre évidemment les modèles qu'on a cités, pourrait à l'avenir jouer un rôle peut-être un petit peu plus important que le simple champion de golf ou le golfeur à la retraite ou le designer de parcours. Mais le père, oui, avait imaginé l'histoire du début jusqu'à la fin. C'était presque un roman pour lui.
Frédéric Lecomte-Dieu, on ne va pas détailler toutes ses victoires au début des années 2000. On y passerait toute l'émission. Il a tout remporté, il a tout gagné, hein, Tiger Woods. Voilà, c'est très simple. Mais très vite, il va devenir donc une icône planétaire. C'est le roi Tiger. Et à coup de sponsor, il va devenir le premier sportif milliardaire. Et ça, c'est pas rien non plus dans le mythe américain, Frédéric. L'argent compte beaucoup. C'est-à-dire qu'il devient aussi un mythe parce qu'il gagne beaucoup d'argent. Frédéric.
Oui, c'est ce que disait Arnaud Thiou, là. Justement, Arnaud, ce qu'il dit est juste. C'est que quand Tiger est arrivé, il n'y a pas beaucoup d'argent. La télévision est arrivée par Palmer. Et ensuite, lui est arrivé avec les sponsors. Alors, les sponsors sont arrivés. Il y a eu Nike, il y a eu American Express, il y a eu d'autres marques, hein. Les dotations ont touché, Arnaud me dira si je dis une bêtise, mais je crois les 100 millions de dollars, à un moment. Et à partir de ce moment-là, tout a explosé. C'est-à-dire que les gens ont voulu s'habiller comme lui, ont voulu jouer les mêmes clubs que lui, les mêmes balles que lui, etc. Et il faut savoir surtout qu'il y a eu même une répercussion même chez nous en France. En France, vous avez 2000 pros là qui sont gérés par la PGA. Et les pros me disaient, Frédéric, à partir du moment où Tiger Woods est rentré en scène, nous, on a eu de plus en plus de gosses qui voulaient jouer comme lui, etc. Et les magazines de golf ont eu de plus en plus de travail, de boulot à faire. Donc c'est, il a révolutionné le monde entier. Ça soit même au niveau des films, au niveau des, il y a eu des films qui ont porté, comme La Légende de Bagavance, Robert Redford. On parle de Bobby Jones, mais je pense que si il n'y avait pas eu Tiger Woods, ces films ne seraient jamais sortis dans les cinémas. C'est vrai qu'il a porté énormément dans l'industrie du golf. Arnaud. Et ces gens-là ont récupéré beaucoup d'argent. C'est pour ça que vous disiez tout à l'heure, bon, le rêve américain, quand il a commencé à chuter, c'était très important parce que si Tiger ne remontait pas, ces personnes perdaient beaucoup, beaucoup d'argent. Il a fallu chercher d'autres personnes. Arnaud, par contre, je vais rebondir juste une minute sur ce que disait Philippe.
Allez-y.
Alors, il a jamais revendiqué ce qui s'est passé autour de cet arbre, etc. et tout. Mais Steve Williams, qui a écrit un livre, là, je pense qu'il a été publié, on peut le lire, hein, et Arnaud l'a certainement lu, hein. Il disait, écoutez, c'est quand même vachement dur, parce que moi, je porte mon sac, son sac, mais entre le tee numéro 2 et le tee numéro 3, les gens le traitent de nègre. Mm-hmm. Il lui crache dessus, encore aujourd'hui, hein, ah, Philippe. Et il dit, j'ai jamais compris comment ce type n'abandonnait pas la partie, prenait pas le type et lui en mettait une. Il disait, c'est incroyable. Et encore aujourd'hui, on le traite de nègre. Et la petite anecdote qu'il a racontée sur cet arbre, il a confié à Hank Aaron. Bon, peut-être que c'est un mensonge, hein. Mais je peux vous dire que dans les années 60 et dans les années même encore aujourd'hui, hein, en 2020, hein, vous voyez comment les Noirs sont considérés aux États-Unis, hein. Mm-hmm. Parce qu'il s'est passé les événements ici qui ont eu lieu en Géorgie, etc. Et c'est très dur. Hein. Les Noirs qui vivent aux États-Unis sont pas arrivés pour vivre le rêve américain. Ce sont des esclaves, hein, qui sont venus à partir de 1600. Donc c'est sûr qu'il y a une revanche. Mais c'est pas ça, Thiou le dit très bien, c'est pas ça qui a motivé, je pense, Tiger Woods à avoir cette vie qu'il a aujourd'hui. Hein. Il voulait battre des records. Hein. Il voulait vraiment devenir une légende du golf, et c'est ce qu'il est devenu d'ailleurs.
Arnaud Thiou, un mot sur l'aspect noir de peau de Tiger Woods.
Non, mais c'est sûr que ça a joué. Le fait qu'il soit noir, ça a révolutionné, vous le disiez tout à l'heure, à Augusta, un joueur noir qui arrive. L'ancien chairman, le président d'Augusta, avait dit « Tant que je serai vivant, les caddies seront noirs et les joueurs seront blancs ». Donc évidemment, Tiger Woods, ça a tout bousculé, ça a tout chamboulé dans une Amérique, évidemment, où le racisme est un problème, et particulièrement dans le golf, où effectivement, quand il était jeune, Tiger arrivait dans les country clubs et était pas forcément regardé assez bizarrement.
Mm-hmm. Faut qu'on raconte même, prenons du concret, c'est-à-dire que quand il gagne le premier Masters à Augusta, la coutume, le rite veut que le gagnant organise un déjeuner, hein, dans la foulée. Et il y a un joueur de golf dont j'ai oublié le nom, qui est un blanc, voilà, qui a fait quand même des vannes sur qu'est-ce que préfèrent manger les Noirs du sud des États-Unis.
Voilà, il va manger des vegetables et tout ce que ces gens-là ont l'habitude de servir.
Ces gens-là, voilà. Les Noirs, donc. Hein, donc faut quand même, là, il y a quand même du concret sur un vrai racisme à l'égard de Tiger Woods. On va faire une pause musicale avec un des comebacks de l'automne produit par Étienne Dao. Voici Danny, le titre joué dingue, et ça fait très très plaisir. Vous allez voir ça.
Je suis dingue, mais y a que toi qui me distingue. Oui, de tous les autres dingues. De toute façon, j'ai un flingue. Alors rangez vos seringues, où je monte à fond la bastringue. De Paris à Saint-Domingue, tu vois, je suis. Je mets ma robe en meringue. m'en sers pour faire du gringue. Tu vois, je suis complètement dingue. Tout le monde dit que je suis dingue. Mais y'a toi qui me distingue. Oui, de tous les autres dingues. Tu vois, je suis.
L'œil du tigre.
C'est un accident de voiture à 2h30 du matin, alors qu'il était apparemment pourchassé par sa femme, qui a révélé le poteau rose.
Philippe Collin.
Tiger Woods se présentait volontiers comme un mari fidèle et un père exemplaire. Le voilà donc contraint de mettre fin, au moins provisoirement, à sa carrière. Dernière en date des victimes du puritanisme ambiant aux grandes dames de ses fans.
Sur France Inter.
Après 12 années passées au firmament du golf mondial, la planète découvre en 2009 que le gendre idéal du sport américain entretient une part d'ombre. Le prodige Tiger Woods cumule les maîtresses au pays du puritanisme et parmi elles, quelques actrices porno. Autant dire que soudain, le mythe s'écroule. Derrière la façade scintillante, les cuisines de l'âme humaine. Et pour espérer poursuivre son parcours, il faut aller à Canossa, demander pardon en place publique, expier ses fautes pour tenter d'échapper à la vindicte.
L'expiation publique devait être à la hauteur des forfaits reprochés. Tiger Woods, visage défait et sanglots au bord des lèvres, s'excuse pour avoir trompé sa femme.
I am deeply sorry.
Je suis profondément désolé pour mon attitude irresponsable et égoïste.
I was unfaithful.
J'ai été infidèle, j'ai eu des aventures, j'ai trompé ma femme. Ce que j'ai fait est inacceptable. Et je suis la seule personne à blâmer.
L'émotion est-elle réelle ou étudiée? Le scénario, en tout cas, est préparé au millimètre. La mère du golfeur est là, bien sûr, pour soutenir son champion déchu. L'épouse bafouée, les enfants délaissés, le feuilleton passionne l'Amérique, mais les sponsors lâchent Tiger Woods. Il arrête la compétition et accepte de suivre une cure de désintoxication sexuelle. Aujourd'hui, pour espérer revenir dans le circuit, il doit boire la coupe jusqu'à la lie. L'Amérique attendait des excuses. C'est fait.
Philippe Chassepot, je rappelle que vous êtes journaliste et traducteur de la biographie américaine de Tiger Woods. On peut être un mythe, ça c'est sûr, mais il faut une part d'ombre aux États-Unis quand on est un mythe. Alors après le zénith, la chute, Tiger Woods a payé quand même très cher son ascension fulgurante et triomphale, Philippe.
Ouais, il l'a payé très cher et je me souviens d'une discussion avec le journaliste américain de golf numéro un qui s'appelle Doug Ferguson, qui travaille pour la Society Press. Et ce qui l'avait le plus choqué, lui, c'est que juste après les révélations de l'affaire, quand il y avait encore les pubs pour avec Tiger, qui en 3x4 dans les aéroports, il voyait des gens s'arrêter devant les affiches et qui secouaient la tête de dépit et d'incrédulité. Et c'est là qu'il s'est dit, mais je crois que plus rien ne sera jamais comme avant pour lui, parce que l'onde de choc était telle que son image allait être bouleversée à jamais. Bon, ce qui a vraiment choqué, je pense, c'est l'intensité de ces infidélités et la façon dont c'était organisé, parce qu'évidemment tous les détails sont sortis. C'était organisé comme une carrière ou comme un entraînement. Hein. Mm-hmm. C'était minuté avec plusieurs téléphones, des téléphones à clapet pour éviter qu'on puisse lire les messages. Je pense que le nombre de maîtresses a vraiment choqué toute l'Amérique. Mais bon, une fois de plus, il a rien fait d'illégal. Hein. C'était juste sur le plan moral. L'émotion a été très très forte et puis on s'aperçoit quand même finalement avec le temps, une fois que l'histoire se réécrit, que les blessures se soignent et que le sportif numéro un de l'histoire redevient numéro un, finalement on met tout ça un petit peu derrière et on finit par l'oublier.
Philippe, vous connaissez bien sa vie parce que vous avez traduit cette biographie. Il y a un élément important peut-être dans ce dévissage, c'est la mort d'Earl Woods qui meurt en 2006. On imagine que d'ailleurs on était inquiet d'ailleurs pour Tiger dans les mois qui ont suivi. Il a voulu arrêter le golf, s'embarquer dans une carrière de SEALs, comme on dit, donc des forces spéciales américaines, devenir béret vert comme son père. On imagine que la mort de Earl a dû peser très lourd dans la tête de Tiger Woods, Philippe.
Ouais, c'est exactement ça. Le père avait une telle emprise sur lui que que finalement, au moment de sa mort, Tiger, finalement, c'est comme s'il devait poursuivre quelque part emprunter le chemin paternel, parce que faut savoir que Earl Woods était ce qu'on appelle un womanizer, comme ils disent en version originale, un homme à femme, et les jeunes filles qui s'approchaient du clan de Woods étaient prévenues, fallait vraiment se méfier du père qui était un séducteur hors pair et qui était un homme à femme. Alors que Tiger, lui, a longtemps été très timide, avec des histoires assez sérieuses, il a jamais dérapé, et finalement à la mort de son père, c'est un petit peu comme si toutes les vannes s'ouvraient et qu'il décidait finalement de suivre ses pas.
Bon, le modèle paternel.
Douteux, hein, parce que oui. c'est quand même les aventures à répétition de Earl Woods qui ont conduit la mère de Tiger à demander le divorce, parce que voilà, après plusieurs centaines, elle en avait un peu marre et elle pouvait absolument plus supporter ça. Donc oui, je pense très sincèrement que si Earl Woods était resté en vie beaucoup plus longtemps, Tiger n'aurait pas eu ce genre de comportement, en tout cas pas aussitôt, et que très probablement il aurait évité les problèmes d'image, les blessures qu'en ont découlé, et que son palmarès ne serait pas le même aujourd'hui.
Arnaud Thillou, un commentaire ?
Oui, non, c'est sûr que la mort du père, a joué un rôle là-dedans. Il avait quand même commencé déjà un peu à s'éloigner de son père, à s'en émanciper. Il avait quand même commencé quelques incartades, notamment à Las Vegas. Il fréquentait un peu Michael Jordan et Charles Barkley, les deux joueurs de basket. Et il avait déjà compris quand même tout ce que sa notoriété et son pouvoir pouvaient lui permettre. Mais c'est sûr que la mort du père a accéléré toutes ces dérives et toutes les vannes se sont ouvertes, comme l'a dit Philippe.
Arnaud, quand un mythe américain tremble, le pays tremble avec. Hein, on évoquait ça pendant le disque de Danny. Ce qu'il faut comprendre, pour bien comprendre combien pèse Tiger Woods, c'est que dans les années 2000, donc les tournois ont lieu le week-end, quand Tiger, ce qui arrive très souvent, gagne le dimanche, Wall Street est impacté le lundi. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre ce que pèse dans l'économie américaine Tiger Woods, c'est que ça fait du bien à la bourse. C'est assez incroyable quand même cette histoire.
Disons que tous ceux qui jouent en bourse regardent le golf et aiment le golf, donc ça leur fait du bien à leur morale. Ouais. Peut-être qu'ils ont parié aussi dessus. Ouais, ouais. Et ils arrivent le lundi, ils sont surexcités. Et c'est vrai que le golf est quand même le jeu le plus difficile. On gagne pas souvent. Et Tiger, il a gagné comme personne pendant cette période-là, entre 2000 et 2006. Donc forcément, il y avait un effet d'accoutumance qui se produit très rarement dans le sport, et quand ça arrive, comme avec Tiger, bah évidemment, tout le monde est euphorique, et notamment ceux qui...
Et lundi matin, Wall Street, on flambait. Frédéric Lecondieu, je rappelle que vous êtes biographe, vous avez consacré une exposition qu'on peut voir sur le web à Tiger Woods. Évidemment, il va promettre de revenir après ses excuses publiques, ce qu'il va tenter de faire, il va d'ailleurs y arriver avant de revenir véritablement, mais il a un souci aussi physique, il a des pépins physiques, Tiger Woods, il va être beaucoup opéré, il va beaucoup souffrir, il va beaucoup avoir recours à des antidouleurs, et qui va donc devenir sans doute dépendant aux antidouleurs, ce qui est un des drames aujourd'hui dans le monde occidental, d'ailleurs l'antidouleur. Et en mai 2017, Frédéric, il est arrêté au volant de sa voiture, sur le bas-côté de la voiture, les paparazzis sont là, le roi est nu, c'est assez tragique, plus personne ne donne cher de sa peau à l'époque, Frédéric.
Oui, c'est vrai, pour rebondir ce que disaient vos deux invités, c'est à la mort de... si son père était encore vivant, il aurait géré les drames et les scandales différemment. Je pense pas qu'il aurait demandé à son fils de faire une conférence de presse pour s'excuser en février, comme il l'a fait avant la Ryder Cup. Ça, j'en suis certain. Je pense pas non plus... il devait être au courant des aventures extra-conjugales de son fils. Hein. Tout le monde était au courant. Hein. Parce que lorsque l'affaire s'est sue, tous les joueurs ont commencé à parler dans la presse. Hein. Les premiers ont désigné Tiger avec ses maîtresses dans les hôtels, etc. Charles Barkley, Michael Jordan, comme disait Arnaud Thillou. Donc je pense qu'il aurait géré les choses différemment. Par contre, là où son père... n'aurait pas pu gérer ce qui va arriver, c'est le problème de son corps. C'est vrai qu'il a subi une série d'interventions chirurgicales très importantes. Qui aujourd'hui, on le voit encore le mettre hors d'état de nuire. On voit par exemple à l'US Open, il a pas passé le cut. Donc c'est très difficile, parce que c'est vrai qu'il a utilisé son corps sans doute trop fort. Hein. C'est lui qui est allé en premier dans les salles de musculation. Et ils étaient deux. Hein. Il y avait lui et Vijay Singh. Hein. Les autres étaient souvent au bar après une partie. Hein. Et tous ces gens-là se sont mis dans des salles de musculation, etc. Il est allé peut-être trop fort, ça c'est sûr. Alors il a changé de pro plusieurs fois. Aujourd'hui, il a pas de pro.
Qu'est-ce que c'est un pro ?
Il essaye de... Un pro, c'est une personne... Alors Arnaud c'est lui qui...
C'est un entraîneur, disons que le golf, encore une fois, ouais. Je dis, est tellement technique que vous avez besoin, quasiment tous les meilleurs joueurs du monde ont un entraîneur particulier avec eux qui les suit, oui, en permanence et qui les aide à travailler leur swing.
Et alors, pourtant... Allez-y, Frédéric.
Ouais, il en a eu plusieurs. Bon, Ankané est parti pendant l'affaire de son épouse. Après, il a eu Como. Et maintenant, aujourd'hui, il est seul. Mais c'est pas plus mal, parce qu'on voit que son swing est plus naturel. On voit qu'il essaie d'économiser son énergie. Alors, il y a une chose importante, une petite anecdote, hein, pour vous donner l'état de physique cet athlète. Hein. Il expliquait dans le New York Times, il y a 15 jours, 3 semaines, il dit, il faut savoir que à chaque fois que je termine une partie, je dois plonger mon corps dans un bac de glace. Et il le fait encore aujourd'hui. Hein. Et ça, c'est la pire chose qu'on a pu me faire dans ma vie. Donc, il vit le martyr, ce type. Hein. C'est quelqu'un qui vit le martyr constamment. Hein. On le voit, hein. Si vous regardez bien sur les tournois de golf, etc., évidemment, il fait des pauses, il prend appui sur des barres, etc. C'est quelqu'un qui souffre le martyr. C'est très difficile. Alors, de temps en temps, il a des périodes exceptionnelles. Il a eu Augusta face à Molinari. Ça, c'était magnifique. Il a eu aussi aux Ozo Championship à Tokyo, au Japon, où là, je pense, je sais pas si Philippe Arnaud vont me contredire, mais c'est la plus belle partie qu'il a jamais jouée. C'était magnifique. Mais aujourd'hui, on voit qu'il est, c'est très difficile. Le Masters, ça arrive ici dans une semaine. J'espère qu'il va gagner le Majors, mais ça va être sans doute très difficile.
Et alors, donc, il souffre le martyr. Tiger Woods, il était plus bas que terre. Et pourtant, Philippe Chassepot, il faut le dire, le prodige ressuscite. Hein. Et dès 2018, Tiger Woods est revenu au plus haut niveau. C'est, je crois qu'on peut le dire sans exagérer, que c'est un des comebacks les plus incroyables de l'histoire du sport, ce retour de Tiger Woods, Philippe.
Oui, on peut le dire. Tiger, lui, qui connaît très bien son histoire du golf, dit que le plus grand comeback de l'histoire, c'est celui de Ben Hogan, un golfeur extraordinaire golfeur dans les années 40, qui a eu un accident de voiture en 49 où les médecins étaient persuadés qu'il n'allait pas s'en sortir. Il s'en est sorti, il était persuadé qu'il ne pourrait pas remarcher, et Ben Hogan, derrière, a non seulement a remarché, a rejoué au golf et a regagné des tas de tournois. Pour Tiger Woods, c'est ça le plus grand comeback. Bon, moi, évidemment, j'aurais un petit peu de mal à juger ce qui s'est passé dans les années 40. Ce que je vois avec Tiger Woods, quand même, c'est qu'il a eu 3 opérations au dos. Il ne voulait absolument pas en faire une 4e. Il était complètement détruit. Il allait jouer, taper quelques balles dans son jardin, jouer avec ses enfants. Et puis, tout à coup, il était foudroyé par la douleur. Il était allongé par terre. Il ne pouvait pas bouger. Et la dernière fois que ça lui arrivait, c'est quand même extraordinaire. Il est tout seul dans sa maison. Il tape des balles. Foudroyé par la douleur, il est allongé par terre. Il ne peut pas atteindre son téléphone et il reste allongé pendant près de 2 heures. Et c'est sa fille, finalement, qui rentre à la maison, qui le voit là, et allongé par terre, et son père lui dit, s'il te plaît, est-ce que tu peux appeler les secours, parce que là, ça va pas du tout. Elle lui dit encore, elle lui dit oui, encore, voilà. Donc, au bout d'un moment, il finit par craquer, par faire une 4e opération, et c'est l'opération qui le sauve. Parce que on va pas rentrer dans les détails, mais c'est une sorte de fusion vertébrale qui lui permet non seulement de reprendre une vie normale, mais surtout de retaper des balles sans trop souffrir. Alors effectivement, notre invité parlait de des bains d'eau glacée. Je n'ose pas imaginer le protocole aujourd'hui, oui, de Tiger Woods, l'échauffement le matin, les soins le soir. Ça doit être quelque chose de quotidien, ça doit être quelque chose d'extraordinairement contraignant. N'empêche qu'il est capable, il a été capable en 2018 de presque gagner le British Open. Il a été capable de presque gagner l'USPGA puisqu'il a fait 2e derrière Koepka. Il a gagné le Tour Championship derrière. Et là, on s'est aperçu que malgré la douleur, malgré la gêne, malgré la perte de souplesse, malgré les changements techniques, notamment au putting, puisque sa posture n'était plus la même, c'est quelqu'un qui a été capable de regagner un majeur. C'est quelque chose d'absolument incroyable, inattendu. Je pense qu'à partir du moment où il était capable de retaper des balles et de rejouer au golf normalement, on pouvait s'attendre à ce qu'il gagne. Mais quand vous y allusiez tout à l'heure à son arrestation en mai 2017 avec les caméras de police qui le filment, où il est complètement défoncé au cachet, demandez à n'importe qui au monde à ce moment-là si Tiger Woods est capable de remporter à nouveau un tournoi de golf, personne ne vous aurait dit oui.
Arnaud Tillius, évidemment que ce retour va beaucoup émouvoir le public américain. Il avait la chute, la souffrance, le martyr et la résurrection. Et c'est vrai qu'il incarne soudain la deuxième chance, hein, dans ce pays du rêve américain. Il est l'essence du moteur de l'Amérique. C'est-à-dire que je crois que quand il revient en 2018, il a un parcours, je ne connais pas, qui s'appelle le East Lake Golf, je crois, où tout d'un coup le public dépasse les frontières des barrières interdites. Il vient le rejoindre sur le green. C'est-à-dire qu'ils sont très, très émus, les Américains, par ce retour de Tiger Woods.
Disons, comme vient de le dire Philippe, après mai 2017, on pensait vraiment que c'était fini. On avait même peur pour sa vie quand on voyait dépressif à ce point-là. On se demandait même est-ce qu'il allait pas essayer de mettre fin à ses jours. Donc, forcément, la résurrection, le voir re-bien jouer au golf, parce que pendant la décennie 2000, il avait joué au golf comme personne, même au début, même après ses problèmes, ses frasques avec sa femme, il avait encore bien joué au golf. Mais là, 2014, 2015, 2016, c'est la traversée du désert. Il ne sait plus jouer au golf. Il finit dernier des tournois, il les abandonne. Et là, tout d'un coup, il recommence à bien jouer. Il revient, comme le dit Philippe, il a failli gagner deux tournois du Grand Chelem pendant l'été. Donc tout le monde recommençait à espérer. On le revoyait en haut des leaderboards. On le revoyait bien jouer au golf. Et là, il gagne fin 2018, le dernier tournoi de la saison, là où il y a les 30 meilleurs joueurs qui sont là. Donc forcément, l'attente était incroyable. Et le public, effectivement, s'est complètement lâché et complètement débordé. Les forces de l'ordre et est venu et l'a accompagné jusqu'au green.
C'est une image assez impressionnante d'ailleurs, enfin très émouvante à voir ce public. Politiquement, Tiger Woods, il est pas simple. Il est tout, on va dire, il cultive une indépendance, c'est-à-dire qu'il a rencontré tous les présidents américains jusqu'à Donald Trump qui l'a décoré il y a un an. C'est pas un activiste en fait, hein, Tiger Woods. Il est plus proche de O.J. Simpson que des frères, enfin de Carlos Smith, quoi. C'est pas ça le concerne pas trop la politique, on sent.
Hein. Non, ni la politique, mais même les histoires raciales. Son père en a plus parlé que lui. Lui n'a jamais voulu être un leader, même encore cette année quand il y a eu tous les problèmes aux États-Unis. Il a eu du mal à prendre parti. On lui a souvent reproché de ne pas bénéficier de son aura, comme LeBron James par exemple peut le faire, le basketteur qui lui se mouille. Il y en a d'autres sportifs qui se mouillent. Lui, Tiger, a toujours eu du mal à ce niveau-là.
Philippe Chassepot, pour terminer cette interview, qu'est-ce qu'on peut lui souhaiter à Tiger Woods? Est-ce qu'il peut encore avoir un palmarès à fournir? Est-ce qu'on peut le voir au JO à Paris en 2024? C'est quoi l'avenir de Tiger Woods dans les quelques années qui viennent? Je rappelle qu'il a quand même 45 ans, c'est pas tout jeune pour un sportif de haut niveau, Philippe.
Vous me demandez de décrire son avenir, comme
oui,
si je pouvais lire l'avenir
dans
les
annuaires
de la
Vous savez
de
faire
Gaulle,
ça, je
ça.
Sais. Oui, absolument.
Avec plaisir, mais je vais vous raconter tout ce qui va se passer.
Allez-y.
Non, plus sérieusement, ce qu'on peut lui souhaiter sur un parcours, déjà il co-détient le record de victoires sur le circuit américain. Alors c'est un record un peu compliqué parce qu'il le partage avec Sam Snead, qui est le décompte était un petit peu spécial au début du siècle précédent. Je pense que Tiger va regagner un ou plusieurs tournois et qu'il va détenir seul le record du nombre de victoires sur le circuit américain. Ça, ce sera fait. Le deuxième record après lequel il court, c'est les 18 victoires en tournoi du Grand Chelem de Jack Nicklaus. Il est à 15 maintenant. Ça risque d'être un petit peu compliqué d'aller jusqu'à 18 parce que, ben voilà, son état, il a 45 ans, on ne sait pas trop comment son corps réagit. Parfois, il est bien pendant 3 jours et puis pas le quatrième. Donc, ce qu'on peut lui souhaiter, c'est au moins d'égaler, voire de dépasser ce record. Et puis, je pense qu'on peut aussi, on n'a pas besoin de lui souhaiter une bonne réussite dans les affaires parce que avec sa fondation, sa marque et les designs de parcours, puis bon, déjà financièrement, il est à l'abri, mais je pense qu'il aura de quoi. Il aura de quoi s'occuper. En revanche, si on veut voir un petit peu plus loin et revenir sur ce que je vous disais tout à l'heure à propos de son père qui lui prédisait un destin absolument hors norme, quand on sait quand même que l'Amérique a élu un acteur en 84, ensuite élu le plus crétin de la famille Bush en 2000, et l'a réélu en 2004, et on va même pas parler de 2016, hein, s'est entendu récemment, voilà notre victime favorite. Pourquoi les États-Unis n'iraient pas élire dans quelques temps un personnage public qui représente l'Amérique, la gloire, la chute et la rédemption?
Très bien.
Pourquoi les Républicains ne seraient pas contents d'avoir non pas un Afro-Américain, parce que lui se considère pas comme Afro-Américain, et c'est aussi pour ça, pour rebondir sur ce que disait Arnaud, sur son manque d'engagement et son manque d'implication dans la défense de la communauté noire. Lui se considère à la fois comme Afro-Américain, comme Asiatique, sa mère est quand même 100% thaïlandaise.
Absolument.
Il parle aussi de ses racines blanches et de ses racines autochtones.
Il faut conclure.
Donc je pense que c'est quelqu'un.
Il faut
une
conclure.
Fois que toutes ces phrases que seront oubliées, je pense que c'est quelqu'un qui peut avoir un destin national absolument hors
donc,
du commun.
Philippe Chassepot a donc prévu ce soir que peut-être Tiger Woods serait un jour président des États-Unis d'Amérique. C'est noté sur l'antenne de France Inter. Merci à vous trois d'être venus ce soir. Je rappelle que vous baladez dans l'exposition virtuelle consacrée à Tiger Woods et orchestrée par Frédéric Lecondieu. Vous trouverez le lien sur le site de l'émission. Vous pouvez lire la biographie américaine de Woods traduite par Philippe Chassepot, disponible aux éditions Hugo Sport. Et enfin, vous pouvez aussi procurer la revue que dirige Arnaud Thius. Elle s'intitule Le journal du golf. On continue en musique avec le rendez-vous de Pierre-Étienne Minonzio, plume de l'équipe, notre partenaire cette année. Cette semaine, on prend le large comme le vent des globes. Pierre-Étienne, bonsoir.
Bonsoir Philippe, bonsoir à tous.
Alors, de quel artiste allez-vous nous parler ce soir?
Alors, plus que d'un artiste, je vais vous parler d'une chanson. en ce jour de départ du Vendée Globe, j'ai eu l'idée de vous raconter l'histoire d'un tube improbable qui donne envie d'embarquer vers le grand large. Manu, Manu,
Manu Reva d'Alain Chamfort. Alors pourquoi avez-vous défini ce titre comme un tube improbable, Pierre-Étienne ?
Ben, tout simplement parce qu'en écoutant cette chanson de 1979, on ne sait pas si on doit danser ou pleurer. D'un côté, il y a une mélodie lancinante et dynamique, selon les mots de son compositeur, Alain Chamfort. Et de l'autre, il y a des paroles assez tristes, signées Serge Gainsbourg. Elles évoquent un trimaran nommé Manu Reva, un terme tahitien qui signifie « l'oiseau du voyage ». C'est avec ce bateau que le navigateur Alain Colas a embarqué en 1978 pour la première route du Rhum. Alors que Colas voguait parmi les premiers, soudain, il n'a plus donné de nouvelles. Ce qui, sur le moment, inquiétait le présentateur du JT d'Antenne 2, Patrick Poivre d'Arvor.
L'enthousiasme provoqué par le corps à corps Birch-Malinowski s'est progressivement transformé en inquiétude ou presque en angoisse pour Alain Colas. Voilà 12 jours maintenant qu'il n'a plus donné de ses nouvelles. Et les brigades de la Marine nationale ont commencé à ratisser l'Atlantique Est.
Le brigade de la Marine nationale, basé à la Guadeloupe, survole actuellement l'Atlantique à la recherche des concurrents qui n'ont pas donné de leurs nouvelles depuis plusieurs jours. Parmi eux, Alain Colas, le navigateur français, n'a pas donné signe de vie depuis 14 jours. Alors, dématage et panne de radio, peut-être cela expliquerait son retard et son silence.
Et finalement, on n'a jamais retrouvé Alain Colas et son Manu Reva.
Oui, et évidemment, il n'y a pas de fin plus tragique pour un skipper. C'est pourquoi cette chanson qui raconte l'histoire, je cite, « d'un bateau fantôme » a quelque chose de glaçant. D'ailleurs, au départ, Chamfort était un peu gêné à l'idée de chanter un morceau consacré à Manu Reva. Mais Gainsbourg lui a répondu « t'inquiète pas Alain, c'est un hommage !» Et Chamfort a finalement accepté ses paroles, d'autant plus facilement qu'il détestait le premier texte que son complice lui avait envoyé pour accompagner sa mélodie.
Oui, parce qu'il y avait une première version de Manu Reva.
Oui, et figurez-vous qu'elle a même été enregistrée. On l'écoute.
Donc en 79, au lieu de chanter Manu, Manu, Reva, la France entière a failli entonner Cali, California.
Alors en fait, à l'origine, la chanson devait s'appeler Adieu, California. Et elle ressassait des clichés associés à la culture américaine. Il était question de Marilyn Monroe ou de bouteilles de Coca-Cola. Chamfort n'était pas convaincu et n'arrêtait pas de répéter à Gainsbourg que celui-ci devait retravailler sa copie, comme il l'a raconté à la SACEM en 2011.
Je ne l'ai pas lâché. Je l'appelais régulièrement. Je disais, écoute Serge, on passe à côté. Je t'assure, c'est dommage parce que, une fois de plus, j'essaye de m'y faire, de réécouter dans tous les sens cette chanson, mais elle ne me convainc pas du tout. Et je commençais à être un peu désespéré. Et puis un soir, la nuit était tombée, quoi, et j'ai un coup de téléphone chez moi, et Serge me dit Manu, Manu, avec sa voix, comme ça.
Et alors, pourquoi l'homme à la tête de chou a finalement accepté d'écrire de nouvelles paroles ?
Alors, à cette époque, Serge Gainsbourg dîne un soir chez le marin Eugène Riguidel, qui navigue alors sur un trimaran dont Jane Birkin est la marraine. Le nom d'Alain Colas s'invite dans la conversation. Pour Gainsbourg, c'est la révélation. La chanson sur laquelle il travaille avec Chamfort s'appellera Manu Reva. Et comme souvent, il a vu juste Gainsbourg. Car ce 45 tours va finalement s'écouler à 1 million d'exemplaires à travers le monde. Un succès inespéré pour une chanson de deuil qui a failli faire l'apologie du Coca-Cola.
Merci beaucoup Pierre-Étienne, je confesse que j'adore cette chanson. Manu Reva d'Alain Chamfort, signé Gainsbourg aux paroles. Merci beaucoup Pierre-Étienne, à la semaine prochaine, salut. Merci beaucoup à Marco Mutel aux manettes ce soir, à Cité d'Arnaud Caillé. Merci à toute l'équipe de l'Œil du Tigre. On se retrouve la semaine prochaine avec un portrait de Karim Abdul-Jabbar, une autre icône du sport afro-américain. D'ici là, passez une excellente semaine sur Inter. Salut et fraternité.